你看那位你码头啊你不熊啊你不熊啊你不熊口大鼻涕啊你口大鼻涕啊你你看那位你码头啊你不熊啊你不熊啊你不熊。Puis, c'était la fête dans la cabane. Tout le monde était heureux. Moi, je me tenais au bord de la table où est-ce que mon grand-père est frappé pour suivre un rythme. Puis, je regardais toute ma parenté autour de moi. Puis, j'étais convaincu que mes parents, c'était des géants. Je faisais partie d'une famille de géants, moi. J'avais 4 ans, peut-être j'avais 5 ans. Puis bon, c'était la première fois. Mais dans mes souvenirs à moi, c'est la première mélodie que j'ai entendue puis que j'ai gardée. Puis encore aujourd'hui, je la fais sur scène. Puis bon, je m'imagine encore le Makoucham que j'ai vu quand j'étais jeune. Ça, c'était mon premier contact avec la musique. Et mes oncles, ils jouaient de la guitare. Et parce qu'il y avait de la guitare, il y avait une guitare dans la cabane. Quand j'allais chez ma tante, eux chantaient. Et chantaient en harmonie. Waouh, mais j'avais jamais entendu ça. J'ai trouvé ça extraordinaire de voir que deux voix pouvaient chanter la même chanson, puis avoir une mélodie, une harmonie dans tout ça. Fait que j'étais tout de suite très impressionné. Mon père, c'était extraordinaire. Mon père, là, il jouait de l'harmonica, tu sais. C'est comme... J'ai toujours trouvé l'harmonica comme un instrument de nomade. Tu sais, parce que c'est un instrument qui se traîne bien. C'est pas gros. Si tu pouvais l'avoir dans les poches, puis bon, la sortir, puis en jouer, c'était comme... Par moment, là, moi, j'ai entendu mon père jouer. Il était dans le coin tout seul. Il jouait de l'harmonica d'une très belle manière. Je me rappelle d'un truc qu'il jouait. Non, OK, comme ça, ça va. OK, ça va comme ça. Puis je m'en suis toujours... Un petit peu comme le chant au Tewegan, c'est quelque chose qui m'est resté dans l'esprit parce que musicalement, c'est quelque chose qui m'avait touché puis ça sonnait comme ça. C'est ça, ça sonnait comme ça. Puis moi, bon, ben, tu sais, dans mon cœur d'enfant qui aime la musique, bon, je trouvais ça vraiment, ça me faisait voyager, ça me faisait. J'étais content d'entendre cette mélodie-là. Et mes oncles, eux autres, ils jouaient du violon, je les entendais des fois jouer du violon. Puis des fois chantait aussi, mon oncle qui chantait des chants comme ça. Puis bon, regardez, il y a une chanson c'est un truc que j'ai entendu quand j'étais jeune. Tu sais, c'est comme je veux la jouer parce que ça sonnait, puis c'était drôle. Je savais pas que c'était drôle, mais plus tard j'ai trouvé ça drôle. Tu peux dire que tu m'aimes, ah, tu peux dire que tu pleures. Pleure, même au téléphone, c'est pas là. Ton cœur est pour une autre, et pour moi disparu. Bonjour, adieu, tu m'auras plus. Appelle-moi ton héros chéri, appelle-moi ton petit chou d'amour. Appelle-moi au téléphone, je serai pas là. Donc, pour une autre est pour moi disparu. Bonjour, adieu, tu ne m'auras plus. Ça, c'est un... Je l'entendais, moi. Ça, quand j'étais jeune, j'entendais ça. C'est un de mes oncles qui chantait. Puis bon, regarde, ils sont devenus un groupe par les temps, là. Ils sont devenus un groupe qui s'appelait Nanamaso. Nanamaso, c'est des éclairs, OK? Wow! Ça, moi, là, j'ai trouvé ça génial. Anyway, c'est comme... Ça fait partie de mon héritage musical du Labrador, ça. C'est comme quelque chose qui est resté en moi, qui est encore en moi, puis bon, je le partage parce que c'est quelque chose que j'aime. Puis ma famille, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Ma grand-mère, mon grand-père, tout ça. Mes oncles, mes tantes, c'est quand même quelques-uns qui m'ont marqué, avec qui j'étais très proche quand j'étais enfant. Puis à un moment donné, avec le temps, un matin, je suis parti, moi et ma famille, du Labrador, puis on s'en venait vers le sud dans un train. On s'en venait dans un pensionnat. Ils sont venus nous chercher. Ils ont dit à mes grands-parents qu'on n'allait plus jamais avoir faim, qu'on n'allait plus jamais avoir soif, puis qu'ils feraient de nous des médecins ou des avocats ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on était appelé à devenir. Puis bon, c'est ce qu'ils ont dit à mes grands-parents. Ma grand-mère, pour elle, c'est c'était des hommes de Dieu qui nous prenaient en charge. Donc, elle avait confiance. Puis bon, regarde, on connaît l'histoire par après. On connaît l'histoire. C'était comme... Moi, je ne savais pas où ce que je m'en allais. J'étais très, très jeune. Toute ma famille, mes soeurs, mes frères, tout le monde, ils sont venus au pensionnat indien de Maliutenam dans les années... Ça, c'est en 65, probablement. Ça m'a pris... quelques jours avant de comprendre qu'est-ce qui se passait, parce que je demandais à voir ma mère, moi. Tu sais, j'avais 5 ans à l'époque. Puis bon, là, mon frère est venu à un moment donné parce que j'arrêtais pas de pleurer. Puis bon, je voulais voir ma mère, je voulais retourner chez nous. Puis j'étais pas bien où ce que j'étais. Puis bon, mon frère est venu me voir dans un coin, puis il m'a dit, arrête. Arrête de pleurer. Maman, puis papa, là, c'est fini. On va faire d'autres choses, on va vivre d'autres choses maintenant. Arrête de pleurer. Puis bon, regarde, là, je venais de comprendre qu'on était rendu ailleurs, puis qu'on allait faire d'autres choses, qu'on allait vivre d'autres choses. Puis bon, OK, j'ai appris à vivre sans repère pour un bout. Puis bon... Par la magie ou par je sais pas quoi, je suis tombé sur un xylophone, un petit xylophone avec un cahier, des couleurs, tout ça. Puis j'ai commencé à jouer sur cet instrument-là. Puis en plus, j'étais bon. À un moment donné, je le maîtrisais bien, cet instrument-là, un xylophone tout petit, un jouet. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Puis bon, je me suis créé un monde aussi. Un monde, je me suis inventé dans ma tête à moi, quelque chose de grand, puis je pouvais m'évader. Puis, en même temps, on avait accès à une télévision en 65, 66 à peu près, 1965. Il y avait le phénomène des Beatles. C'était la vague partout dans le monde qui venait de l'Angleterre. Tu sais, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, John Lennon. Moi, j'étais marqué par ça. J'étais... Wow, moi, là, dans ces années-là, j'avais 6 ans, 7 ans. C'est ça qui m'impressionnait le plus. T'sais, ça m'impressionnait autant que ma famille, ces gars-là. Fait, parce que, bon, il y avait beaucoup, beaucoup de musique. Puis bon, c'était comme... Il y avait une vague. Tout le monde qui avait une guitare, fallait qu'il joue une toune des Beatles. Avec le temps, moi, j'ai appris beaucoup avec cette musique-là. Ma famille avait déménagé à Manutenham. On avait une maison à Manutenham maintenant. T'sais. Puis pas loin de chez moi, quand j'avais 13 ans, peut-être 14 ans, il y avait Philip McKenzie. Philip McKenzie, c'est quelqu'un qui a composé des chansons, qui est très connu. Moi, j'allais chez lui. Il me faisait entendre des musiques parce qu'il y avait un tourne-disque. Regarde, il y avait toutes sortes de musiques là-dedans qui étaient très actuelles à l'époque, dans les années 70 à peu près. Là. C'était l'époque de toutes sortes de musiques. Il y avait une espèce de liberté. Flower power, c'est comme ça qu'il disait. Là. C'était comme, c'était hallucinant. Il y avait Jimi Hendrix, il y avait toutes sortes de truc à la guitare, qui est Santana, même lui, là, il vient de cette époque-là. C'est là que je les ai découverts, moi. T'sais. C'est là que j'ai découvert leur musique à travers mon ami Philip McKenzie. Puis j'étais jeune, là. Lui, il me laissait parce que, bon, il me laissait fort parce que il comprenait probablement que j'aimais la musique. Puis bon, il m'a aidé beaucoup. Parce que pour en revenir un peu à la famille, au Labrador, moi, j'avais vu les instruments, j'en avais vu d'autres chez mon ami Philippe. Puis là, j'avais pris une guitare dans les mains, tu sais. Une guitare dans les mains, j'essayais de reproduire ce que j'entendais, ce que j'avais vu la veille dans les parties chez ma famille, chez mon père. Tu sais, il y avait beaucoup de chanteurs qui venaient chez nous. Puis moi, j'aimais ça, j'entendais... ce beau monde-là chanté. Puis, j'ai rencontré Philip McKenzie. C'est lui qui m'a montré. C'est avec lui que j'ai monté sur la scène pour la première fois. Je l'ai accompagné. Il m'a aidé beaucoup. C'est quelqu'un qui m'a aidé beaucoup. Puis, c'est avec lui que j'ai appris à monter sur scène. Regarde, ce que je me souviens, là, ça ressemble à ça. Moi, j'ai voyagé, moi, avec cette chanson-là, avec Philip McKenzie. Tu sais, c'est comme les premières fois que je suis monté sur scène. À Natashquan, à Shufferville, à Manutenham, dans des mariages, dans des trucs comme ça. Moi, j'ai appris. C'est là que j'ai appris. Puis Philippe, il me laissait aller, tu sais. Tu veux chanter, toi, regarde, c'est quoi ta chanson? Ah, merde, regarde, moi, je vais chanter ça. Puis regarde, la première fois, j'ai une guitare pas loin, là, OK? Je vais... Une des premières chansons que... La première chanson, en fait, que j'ai faite, là, ça allait comme ça. Ça, puis Philippe y jouait là-dessus. C'était hallucinant. Moi, j'avais trouvé quelque chose comme... qui parlait de nous autres, qui parlait de notre capacité d'être solidaires, puis d'être... que ce nom maman, c'est ça qu'on disait. Puis bon, regarde, j'ai appris, c'est là que j'ai appris à être sur scène. Puis bon, regarde, puis je remercie Philippe McKenzie de m'avoir laissé entrer dans cet univers-là, parce que lui, c'était lui, j'accompagnais lui. Puis à un moment donné, il y a eu évidemment Claude McKenzie qui est venu nous donner un coup de main. C'est un talentueux. Claude McKenzie, c'est quelqu'un qui... Quand je l'ai croisé, là, il y a quelques années, c'était comme... J'étais content parce que il amenait un plus dans le groupe où est-ce qu'on jouait. On pouvait jouer plus longtemps. On était invité à faire des rassemblements, des mariages, t'sais, de plus en plus. Moi, j'étais content parce que à travers Philippe... J'avais rencontré Morley Loon, qui est un Indien cri qui est venu à Malutenam, qui nous a influencé beaucoup. C'était lui une des premières fois où on entendait chanter dans une autre langue qu'en anglais puis en français. Donc ça nous a touché beaucoup. Il chantait en cri. Bon. Wow, ça c'est ce que moi j'ai découvert à travers lui, puis Philippe McKenzie aussi. Bon, on pouvait être bien à chanter en Innu, puis avoir le même rassemblement, puis être aussi fier. Puis bon, regarde, c'était la magie qui grandissait. Moi, j'ai appris ça avec eux autres. Puis après ça, j'ai rencontré Willie Dunn, Son of the Sun. Ça, c'est quelqu'un qui m'a aidé beaucoup. Willie Mitchell aussi. C'est quelqu'un avec qui j'ai appris. C'est tous devenus des amis de la famille. Puis bon, des amis de Malutenam. Puis après ça, bon, il y a eu le festival Innu Nikamu. Dans les premières années, je m'en suis occupé beaucoup. J'ai fait partie de ceux qui ont créé l'événement. La première édition, c'était moi et des amis qui ont fait ensemble pour que ça se produise ici à Malutenam, puis ça dure depuis plus que 30 ans maintenant. Mais il y avait cette gang-là. Il y avait Morley Loon, il y avait Willie Dunn, il y avait Willie Mitchell, il y avait Gene Siwi, ah oui. Il y avait Philippe McKenzie, il y avait Claude McKenzie. En tout cas, on était une gang. Puis il y avait des jeunes femmes aussi qui, de plus en plus, prenaient de la place. Puis bon, il y a eu des chants de gorge qui sont venus à Malutenam, des chanteuses de gorge, des Inuits. Puis bon, il y avait plein de monde. Sylvie Bernard, à l'époque, je me souviens, wow, man, c'était comme... Oui, on avait besoin d'une présence féminine, je dirais, pour que ça soit plus vrai encore. Bon, regarde, on avait tout ça. On était quand même bénis, nous, de pouvoir vivre ces moments-là à travers la musique, à travers des artistes de différentes nations. Innu Nikamu, c'est quand même quelque chose de grandiose par rapport à qu'est-ce qui se passe sur la scène au niveau de l'Amérique. Quand on parle des Indiens d'Amérique, là, il y en avait beaucoup à Malutenam à la première fin de semaine du mois d'août à chaque année. Puis bon, moi, là, j'ai appris aussi. C'est aussi là que j'ai commencé à faire Kashtan. C'était très intense. Kashtan, c'était Claude McKenzie, puis moi. Regarde, on était sur scène. Lui chantait ses chansons à lui. Moi, je chantais les miennes. Quand il venait harmoniser dans une des chansons que je faisais, bon, ben, regarde, la magie opérait. Le monde aimait beaucoup ça. Puis on a eu, quand même, tu sais, on a voyagé beaucoup. On est allé... Winnipeg, on est allé à Natashquan, on est allé chez les Inuits, regarde, avant d'être connu. Puis après ça, bon, regarde, à un moment donné, on s'est retrouvés dans les Europes. On s'est retrouvés loin de chez nous, je dirais. T'sais, on avait choisi de partir sur la route puis de suivre la musique où est-ce qu'elle voulait bien nous amener. À travers tout ça, là, tu sais, à travers, j'ai une famille à Maliutenam, tu sais, pour que tout ça puisse arriver, on peut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut faire toute seule. C'est quelque chose, on a toujours besoin des autres. Qu'ils soient musiciens, qu'ils soient techniciens, qu'ils soient quelqu'un de la famille qui fait partie de la musique. Bon, ben on fait pas ça tout seul. Même si on est souvent seul, mais c'est quelque chose qu'on fait avec d'autres. Un groupe, c'est d'autres aussi. Tu sais, c'est comme j'ai appris que y a rien qui se fait tout seul dans cet esprit-là. Ok, il y a toujours ça prend une famille, ça prend une communauté, ça prend toute une nation, ça prend tout le monde qui veut bien. Puis c'est de là que le Makoucham est important, je dirais, pour moi. C'est que moi, là, quand j'étais jeune, puis que j'entendais mon grand-père faire danser avec fierté toute la famille, je crois encore aujourd'hui que quand je monte sur scène, c'est ça que je veux reproduire. Je suis à la recherche de ce moment-là. Puis bon, regarde, des fois ça marche, tu sais, je suis un faiseur de Makoucham, c'est ça que j'aime. Puis bon, regarde, à travers la musique. Moi, j'ai toujours suivi où est-ce que la musique voulait bien m'amener. Il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été faits par ma famille pour que moi je puisse monter sur scène. Par ma famille, par ma communauté, par ma nation, pour qu'à un moment donné, on reconnaisse le travail que j'ai fait. Tu sais, c'est comme ça, ça demande, c'est un travail. Ça demande beaucoup d'efforts pour pouvoir prendre une guitare puis monter sur scène devant un micro. Il y a beaucoup de monde qui travaille avant que ça arrive. Tu sais, puis évidemment, bon, il y a le côté création. Bon, regarde, il faut s'asseoir, faut qu'on est ensemble, puis bon, on travaille. Moi, j'ai la chance de travailler. Je suis bien, bien, bien entouré. J'ai quand même un bagage qui m'a amené sur la route souvent. Et il faut aimer ça. Il faut vraiment aimer ça, là. Tu sais, c'est comme de plus en plus. Moi, je connais la route. Je connais bien la route. La route me connaît aussi, puis bon, regarde, je vais faire une chanson justement qui parle de la route, puis ça s'appelle Meshta Meshkeno. Meshta Meshkeno, là, c'est comme Meshta Meshkeno, c'est la grande route, ok? Pour nous, Amalitenam, Meshta Meshkeno, c'est la route 138. C'est ça que
c'est ça que je chantais là dernièrement, parce que bon, je sais d'où je viens, puis je connais la route 138. Ça fait quand même plusieurs années que je fais de la musique avec des amis, puis bon, regarde, j'ai eu la chance de partager la scène avec Richard Séguin. C'est un ami à moi que j'aime beaucoup, avec Zachary Richard, qui est déjà venu ici à Manutenam, puis qui aime bien ça quand on nous voit, quand on nous voit ensemble. Puis bon, ben regarde, moi aussi j'aime ça. Puis il y a ceux-là qui m'ont marqué beaucoup. Ça inclut, ça fait partie de ma famille, ce monde-là. Regarde, Marc Derry, qui est déjà venu ici, au studio Makoucham, travailler, et a passé du temps avec nous. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il y en a d'autres aussi que Luc de la Rochelière, c'est quelqu'un qui m'a choisi. J'ai choisi une chanson de lui qu'on a fait ensemble sur une de ses projets à lui. Puis bon, regarde, c'est tout du monde que j'aime, c'est tout du monde que j'apprécie. Je sais qu'est-ce qu'ils font, je sais quel genre d'efforts ils font, quel genre de sacrifices ils font pour arriver sur scène. Puis pas juste eux autres, c'est aussi la famille autour d'eux autres qui donne beaucoup pour qu'on puisse voir Vincent Vallière sur scène. Puis regarde, on est très heureux. Puis moi aussi, je partage la scène avec cette gang-là, Michel Rivard, toute cette gang-là, là, c'est du monde que j'aime, c'est que j'apprécie. Puis bon, après ça, bon, il y a eu un moment donné une explosion de la musique autochtone, c'est-à-dire, bon, Shawit, il vient de Manutenam, Mathieu, il vient de Manutenam, tu sais, c'est comme, tu sais, si t'es bon, là, tu viens de Manutenam, tu sais, c'est comme, je m'amuse à dire ça. Puis, regarde, il y a eu les autres, il y a eu Elissa Pie. Il y a Karen que j'aime beaucoup sa voix. Elissa Pie, je l'ai nommée parce que, bon, regarde, c'est quelqu'un que je crois souvent, puis que j'apprécie qu'est-ce qu'elle fait, puis je la trouve très, très, très courageuse de partir de Saint-Louis puis de se rendre jusqu'à Paris. Regarde, il faut le faire, ça. C'est pas donné à tous, mais quand même, tu sais, c'est une fille de grand talent. À travers de tout ça, on a des familles aussi, tu sais. On a des familles, on a des enfants, on a des petits-enfants, regarde, qui grandissent, je crois et j'espère, à travers ce qu'on fait, à travers, qui sont fiers de qu'est-ce qu'on fait, tu sais, puis ils écoutent qu'est-ce qu'on fait, tu sais, c'est comme, il y a un beau partage, tu sais, c'est comme, moi j'arrive de très loin, là, tu sais, quand je m'y remets à penser, puis je suis pas rendu encore, là, tu sais, j'ai encore envie de voyager, j'ai encore envie de toucher les gens, de tu sais, moi j'ai assisté, je fais partie de ceux qui ont vu 100 000 personnes danser là, c'est hallucinant ça, c'est magique ça, on a assisté à des beaux moments comme ça. Regarde là, je pense, quand je dis ça, je pense à Cashton à l'époque avec Claude McKenzie, puis on a voyagé beaucoup, puis regarde, on a toujours aimé ça, je crois. Maintenant, à travers tout ça, là, moi, j'ai eu une chance d'être bien entouré. Je suis encore. Et j'ai pas fini. Et je veux encore partager des choses. J'ai eu la chance de faire de la musique de documentaire. J'ai eu la chance de faire partie des films. Et j'ai eu aussi la chance de travailler sur de la musique en dessin animé, très très belle expérience que j'ai eue. Regarde, j'ai eu la chance de travailler avec d'autres artistes reconnus. Ça, j'ai pas fini encore. J'ai encore d'autres choses à vivre, j'ai encore des choses à donner, à partager. Comme je l'ai dit souvent, et je le dis encore, c'est que je suis très très bien entouré. Moi, j'ai reçu des prix, moi. On m'a décoré d'une certaine manière, puis j'ai dit merci. Encore, je dis merci. Et je dis merci si vous avez avez reconnu le travail que j'ai fait à travers la musique. Vous avez reconnu ma famille aussi. Vous avez reconnu les efforts de ma famille. Vous avez reconnu les efforts de ma communauté. Vous avez reconnu tout le monde qui est autour de moi. Ben, regarde, ça, c'est quelque chose d'apprécié. Maintenant, je travaille ici. Je suis au studio Macoucham. J'invente encore. Tu sais, je veux encore partager des choses. Puis, je veux encore être bien. Puis, aussi bien que, je sais pas moi, quelqu'un qui part avec ma musique dans l'espace. Tu sais, Julie Payette, je l'ai rencontrée à un moment donné, il y a quelques temps de ça, quand je pensais à ceux avec qui j'ai travaillé, là, elle m'a donné une chance. Je l'ai rencontrée à un moment donné, puis je la connais un peu. Là. Elle me dit, est-ce que tu as eu la nouvelle? Quelle nouvelle, est-ce que je pars avec toi dans l'espace? Puis elle m'a dit oui, tu sais. Puis bon, OK. Elle me dit, je pars avec ta musique. Je m'en vais faire le tour de la Terre. Je vais t'écouter rendu en haut. Ben, regarde-moi, là, j'ai vécu des affaires comme ça dans l'univers de la musique, tu sais. J'apprécie ça. J'apprécie tout ce beau monde-là avec qui j'ai la chance d'échanger. Ça fait un peu comme je nomme des gens. Ça fait partie de moi, ça. C'est comme je suis béni, moi. Tu sais, quand j'aime une fois, j'aime pour toujours, comme dirait notre ami Richard Desjardins. De vous raconter ça aujourd'hui, ça me fait du bien. Puis j'espère aussi que si vous écoutez, ça vous fait encore du bien aussi. Mon frère, qui était très, très important dans ce que j'ai fait depuis le début, c'est Réginald Volant, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un qui a fait partie de ma vie, qui était avec moi dans le même train. On s'en venait du Labrador, puis on est allé vivre un peu dans le sud, dans un pensionnat. Puis lui était là avec moi, il m'a toujours protégé. C'est un petit peu lui qui a fait en sorte que Ashton existe, parce que bon, il croyait en nous autres, il nous a voyagé souvent dans la nuit tard, puis tout ça. La dernière chose qu'il m'a dit, la dernière fois que je l'ai vu dans sa dernière journée, il m'a regardé, puis il m'a dit, The show must go on. C'est ça que je dis, moi. The show must go on. Merci. Au revoir. Yamé.
Narration, Florent Volant. Conception sonore, Régent Bouchard. Enregistré au studio Macoucham. Réalisation, Kim Fontaine. Balado de Radio CKAU, administré par Tarinou. Présenté grâce à Patrimoine Canada, l'Institut Tchekabèche, Transistor Média, SOCAM, PAL Airlines et le Complexe Agara. Le récit de Tchekabèche. Dans la culture Innu, beaucoup de légendes ont réussi à franchir le temps et se retrouvent encore aujourd'hui très présentes. Certaines remontent même aux dernières glaciations. C'est le cas de l'histoire de Tchekabèche, une colligation de poésie orale essentiellement axée sur la spiritualité qui nous présente l'époque où les humains et les animaux partageaient vraiment tout, incluant le mystérieux monde du rêve. Racontée en langue Innu par Charles Lapie-Bellefleur et traduite par Joséphine Bacon, voici l'un des nombreux récits de Tchekabèche.
OK. Il dit que les Atlokan sont au nombre de 10, c'est à partir du commencement de la Terre et du monde. Toutes ces 10 Atlokan, ils sont venus jusqu'à nous encore aujourd'hui. Ils sont encore vivantes. Et dit, il va commencer avec un petit bout de récit. C'est un poisson qui est sorti de l'eau. Puis s'est installé sur un endroit très sablonneux. Puis c'est comme ça que la terre aurait commencé. Puis en sortant de l'eau, quatre pattes puis sont poussées. Après ça, il s'est dirigé, mettons, quelque part, là. Puis là, il a vu un arbre. Puis là, il a grimpé sur l'arbre. T'sais, il avait quatre pattes. Puis quand il est redescendu, là, il ressemblait à un être poilu. Quand on raconte ce poisson qui est sorti de l'eau, ça raconte en même temps le début du monde. Il y a deux grands Atlogan, Tamé et puis Tamé Hwewajo. Puis le troisième s'appelle Chagabesh. Donc Chagabesh, quand il était sur la terre, il était tout poilu. Donc, le vieux Chagabesh, c'est le père de Chagabesh, il a dit à sa femme, il dit, on va aller à la recherche d'écorce. Chagabesh n'était pas encore né, il était encore dans le ventre de sa vieille, de sa mère. Le vieux Chagabesh est parti avec sa femme à la recherche d'écorce. Dans ce temps-là, au tout début du monde, il y avait beaucoup d'êtres, tu sais, ou des animaux qui étaient dangereux, tu sais, des animaux là, dont on avait peur. Puis dans ces années-là, les ours existaient déjà. Il y avait toutes sortes d'ours de toutes les races. Le père avec sa femme, ils ont continué leur chemin, arrivés à mi-chemin. C'est là qu'il a rencontré Katitwa. Sa fille était restée au campement. Puis c'est à l'endroit où ils ont rencontré Katitwa, c'est là qu'ils ont été tués par lui. Le soir, la jeune fille, elle était inquiète de ne pas voir le retour de ses parents. Au lendemain matin, il est parti à leur recherche. Puis il est arrivé à l'endroit où Katitwa les avait massacrés. La maman de Chagabesh était encore dans son bedon, mais là, Katitwa, il ne l'avait pas mangé, il avait juste coupé le cordon. Donc, Chagabesh, ses parents avaient été massacrés par Katitwa, mais Chagabesh, lui, il était encore dans la poche, dans le placenta de sa mère. Fait que quand il a retrouvé son frère, il l'a pris puis il l'a ramené au campement. Fait que là, il l'a placé dans une espèce de contenant, puis il l'a recouvert. Comme il l'avait bien enfermé dans quelque chose de chaud, fait qu'il a attendu que son petit frère prenne vie, naisse comme une naissance, là, quand on accouche.
OK.
Puis là, à un moment donné, tu vois, Chagabesh, il a réussi à enlever le couvercle. Fait qu'il a réussi à sauver son frère. Son frère est venu au monde comme s'il avait été dans un in vitro. Hein? Il a fini par prendre forme puis à devenir un petit être humain. Puis Chagabesh, il n'a pas pris longtemps à devenir grand. Puis là, il était déjà à quatre pattes. Tu sais, il se déplaçait à quatre pattes. OK, puis évidemment, Tchagapesh, il a fini par devenir un petit bonhomme, un petit garçon. Fait qu'elle lui a fabriqué un arc puis des flèches. Quand Tchagapesh a été grand comme ça, là, il réfléchissait beaucoup. Okay. Puis Tchagapesh, alors qu'il était avec ses flèches et ses arcs, ben là, il chassait de l'écureuil. C'est tout ce qu'il chassait. Il chassait l'écureuil. S'est mis à se demander comment ça se fait qu'il n'y a que nous deux, notre père et notre mère, sont pas là. Fait qu'il est allé voir sa sœur pour lui demander pourquoi. Fait qu'il a dit, ma sœur, il dit comment ça se fait qu'on n'a pas de père ni de mère. Fait que là, sa sœur lui a dit, mais il dit, c'est Katsidwok. Ils ont été tués par Katsidwok. Il dit, c'est un gros ours. Fait que là, il a demandé à sa sœur, mais où est-ce qu'il se tient, Katsidwok? Fait que sa sœur lui a dit, il est là-bas, il dit, tu vois la plus haute montagne? C'est là qu'il est, Katsidwok. Puis il dit, ne t'avise pas d'y aller, il va te tuer. Il a dit à sa sœur, il dit, OK, j'irai pas. Mais sauf qu'il est allé dans une direction, tu sais, que sa sœur ne la verrait pas par où il s'en allait. Fait que là, il est passé comme ça, puis il est allé le chercher par l'autre côté, tu sais. Là, sa sœur ne le voyait pas. Okay. Quand il est arrivé proche de la montagne où se trouvait Katsidwok, il s'est mis à chanter. Puis Tchagapesh, il s'était installé sur une grosse pierre, puis là, il s'est mis à chanter. Les paroles de son chant disaient « Je m'en vais rejoindre Katsidwok, celui qui a tué mon père et ma mère.
»
Autrefois, il y a très très longtemps, les ours se tenaient tous dans un seul endroit. Toutes les races d'ours, ils se tenaient en gang. Ils étaient très très nombreux. Fait que là, quand Katsidwok a entendu le chant de Tchagapesh, il a dit à l'ours brun, il dit, va voir Tchagapesh. Fait qu'il a dit à l'ours brun, t'as l'air tellement dangereux puis monstrueux, il dit, aussitôt qu'il va te voir, il va en mourir. Fait que là, l'ours brun est parti, t'sais. Mais sauf que Tchagapesh pouvait sentir sa présence, ses vibrations sur la terre, sur le sol. Fait que Tchagapesh, quand il a vu l'ours brun arriver, il dit, c'est pas toi que j'attends, il dit, retourne d'où tu viens. Fait que quand il est arrivé là où il y a plein d'ours, fait qu'il a dit à Katsidwok, il dit m'a renvoyé, il dit que c'est toi qui veux voir. Autrefois, il y avait un ours qui existait. Tu sais, qui était tellement poilu, tu sais, il y avait des cheveux pleins de visage. Ah ouais? Ah, et ouais, Fait que, tu sais, t'as qu'à dire, toi, que c'est. Et on a été en train de faire. Fait que là, t'as qu'à dire, toi, qu'il a dit, toi, tu vas y aller.
On a Tchagapesh, il y a de matin,
mais. Quand il est allé rejoindre Tchagapesh, Tchagapesh pouvait sentir qu'il s'en venait, tu sais, dans les vibrations du sol. Fait que quand il est arrivé près de Chagabich, Chagabich lui a dit la même chose. Non, non, il dit, c'est pas toi que je veux voir. Il dit, va-t'en chez... Il dit, retourne d'où tu viens. C'est torse ou long cheveux, je vais dire. Ben, t'allais voir quand il torse et puis il lui dit, il m'a renvoyé. Hein? Fait que là, quand il torse, il a fini par se décider. Il dit, moi, moi, aller le voir. Aussitôt qu'il s'est levé debout, j'imagine, c'était Chagabesh, il a aussitôt senti sa présence.
OK.
Fait que là, quand il a senti qu'il s'était mis debout, il s'est dépêché à cacher son arc et ses flèches, mais tu sais, comme un peu en bas d'une pente. Fait que là, Chagabesh s'est installé, s'est étendu à un endroit où il était sûr que Katito allait passer. OK. Fait que là, Chagabesh, tu vois, il s'est étendu, mais sauf qu'il a pris le corps d'un tout petit enfant. Quand Katito a vu qu'il y avait un petit enfant qui était étendu sur le chemin où il passe. Puis là, il a regardé, c'était un petit enfant. Fait que là, il se demandait, il dit, c'est lui qui était à la recherche de Katito. Et il dit, il est tombé près de mort quand il m'a entendu arriver. Hein?
On est à Chagabesh
était toujours poilu. Quand il l'a vu, c'était un petit enfant, fait qu'il s'est mis à le lécher ici. Ici aux essais, fait que là, tu comprends bien, Chagabesh, ça le chatouillait. Chagabesh, il souhaitait que quand il doit le pousse avec son museau. OK. Fait que Katidok l'a poussé avec son museau, fait qu'il a roulé, mais son arc et ses flèches, il était encore un peu loin. Fait que là, tu sais, Katidok a continué à lécher, puis à Wagdon, tu sais. Chagabesh, lui, il se retenait de ne pas rire, parce que ça le chatouillait. Hein? Fait que là, Katidok l'a encore repoussé avec son museau. Puis il a roulé, puis il est arrivé. Là, il avait caché son arc et ses flèches. Tu sais, quand Chagabesh est arrivé, tu sais, là où il était son arc et ses flèches, il a saisi son arc et ses flèches, puis il a repris une grandeur normale.
Quand il
qui a failli se sauver. Fait que là, quand il dit, au lieu de se sauver, il s'est mis à parler à Chagabesh. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu viens chercher? Il dit, je viens pour rencontrer Katitok, celui qui a tué mon père et ma mère. Fait que quand il dit, tu réussiras jamais à tuer. Fait que là, quand il dit, il est aussi dur que cet arbre que tu vois qui est dur. Il dit, quand il dit, qu'il est dur demain. OK. Fait que là, Chagabesh a pris son arc et ses flèches, puis là, il a visé l'arbre, il s'est brisé en mille morceaux.
Fait
que là, Gadito, quand il a vu ça, tu sais, qu'il était si fort que ça, il a failli se sauver de lui. Fait que là, quand il a vu, tu sais, que Tchagabé pouvait détruire l'arbre qui était dur, dur, fait que là, Gadito, il dit, c'est un mensonge que je te disais. Et fait que là, Gadito, il dit, ben, il dit, il est bien plus dur que cet arbre. Fait que là, Tchagabé, il dit, mais il dit, il est dur comment? Il dit, il est aussi dur que la falaise que tu vois là-bas. Fait que là, Tchagabé, il a repris son arc. Fait que là, c'était la falaise, il s'est effrité. Fait que là, tu sais, Gadito, quand il a vu ça, c'est là qu'il a pris ses jambes à son cou pour se sauver. Fait que là, Tchagabé, quand il a vu Gadito prendre ses jambes à son cou, il est retourné chercher son arc et ses flèches d'abord, Egma. Fait que là, il s'est mis à la poursuite de Gadito. Il l'a attrapé à un côté de la montagne, je dirais, là ça descend. Fait que là, Tchagabé, il a pris son arc et ses flèches, puis il l'a tiré, puis il l'a poigné, ici, là, près de à sa hanche. Là, il est tombé. Fait que là, il s'est mis à parler fort à Gadito. Fait que là, il lui a parlé de ce qu'il avait fait à son père et à sa mère, pourquoi il les avait tués. Fait que là, Gadito, il dit, arrête de me maganer, là. Il dit, parce que c'est un peu trop, hein?
Non.
Fait que là, Tchagabé, ça dit à Gadito, mais il dit, toi, t'étais pire, tu as tué mon père et ma mère.
Oh, ben, mon tawadada, oui, toi, gani, non, on n'est pas.
Fait que là, tu sais, qu'après lui avoir dit ça, il a repris son arc et ses flèches, puis là, il l'a tiré dans son oreille, puis c'est comme ça qu'il a tué Gadito.
On va noter à toi, tu sais.
Fait qu'il l'a coupé ici. Il l'a coupé ici, puis là, il a essayé de trouver les os de son père et de sa mère. Il les a pas trouvés. Il a trouvé que les cheveux de sa mère. Puis il a trouvé la barbe de son père. Fait que là, il s'est mis à souffler sur les cheveux de sa mère et la barbe de son père. Puis c'était les cheveux, puis le poil de barbe, ils ont commencé à bouger. S'il avait trouvé l'os de sa mère ou de son père, il aurait pu les ressusciter, les faire renaître. Ben, s'il avait réussi à faire ça, là, à redonner vie à son père et à sa mère, on raconte qu'on aurait été trop nombreux sur la terre.
Conteur, Charles-Happy Bellefleur. Traduction, Joséphine Bacon. Narration, Ève Ringuette. Réalisation et montage, Kim Fontaine. Balado de Radio CKU, administré par Tarino. Enregistré lors du Festival interculturel du conte de Montréal. Présenté grâce à Patrimoine Canada, l'Institut Tchagapesh, Transistor Media, SOCAM, Paul Airlines et le complexe Agara.
Quickest new check. Kahakat. Josephine Chekewawit Magno Inou Aimona. Kahakat.
Kahakat. Kahakat.
Le mot est.
Devinez, devinez. Moi, Kahakat Chaine. T'Paipihmoine. Peut-être on va parler de T'Paipihmoine qui est le cadran.
Un cadran.
Le cadran, un monde. T'sais, horloge. On ne peut pas l'appeler autrement, tu sais, que ce soit une horloge, un cadran ou une montre, ça va toujours être le même mot. Puis, tu sais, puis ce mot-là, tu sais, il a fallu qu'on le voie aussi, tu vois, ce que j'expliquais dans les mots, dans les choses nouvelles là, qui sont venues d'ailleurs. Quand tu regardes la montre et donnes le temps, dans le mot « t'paipihmoine », t'as « t'paikon » qui est mesuré, qui est la mesure. Pipiham, soit c'est la lune ou le soleil. Donc, si tu prends le mot de Pipiham, c'est la mesure du soleil. Mm. Tu sais, il y a 12 heures, il y a 12 lunes. Tu vois, ça vient de là. Ça vient vraiment des lunes, je pense, des pleines lunes. Pour faire le tour, il y en a qui disent qu'il y a 13 lunes, mais pour le cadran, on parle de 12 lunes.
C'est-tu parce qu'avant ça, le temps était toujours mesuré selon
la lune,
selon la lune, tu sais, plus la lune que le soleil, tu peux.
Mais tu vois, je pense que dans le temps était beaucoup mesuré par l'hiver.
Mm-hmm.
C'est l'hiver qui faisait l'année. Quand tu demandes à quelqu'un quel âge as-tu, tu vas lui dire combien d'hivers as-tu.
Mm-hmm. Combien tu as réussi à passer d'hiver?
Combien d'hivers? C'est le nombre d'hivers que tu vois.
Mm-hmm. T'es ouais. Popoun? Hein, tu dis popoun,
c'est l'hiver. Okay. Popoun, c'est l'hiver. Ouais. Et tata, ça demande le nombre. Puis chine, c'est la terminaison pour tu. Donc, le cadran, l'horloge, la montre, c'est à partir du nombre de lunes. Et puis là, c'est les hivers. Tu vois, les hivers peuvent durer 9 mois. Donc, tu sais, pour dire ton âge, il faut que tu parles des nombres d'hivers. Tu sais, on mesurait le temps par l'arrivée des otardes, l'arrivée des oiseaux aquatiques, qu'il était temps, tu sais, de partir à la chasse communautaire pour chasser le caribou. C'est les animaux qui faisaient notre temps. C'était comme s'ils avaient été les maîtres du temps. Puis les naissances aussi des animaux. C'est des petits animaux. Quand les animaux mettaient bas, mm-hmm. Je savais que là, il fallait les laisser tranquilles parce que...
Parce que sinon, l'âge de la personne, c'est ouais. Comme si on mettait le centre du monde sur nous autres mêmes. Puis là, dans ce temps-là, c'est sûr que le centre du monde, c'était pas les individus, mm-hmm. C'était bien plus large que ça, animaux.
C'était bien plus logique aussi. Je pense que l'âge a commencé à être... On a commencé à faire attention à l'âge qu'on avait, tu sais, avec les baptêmes. Parce que c'était daté. Tistegaïgan, par exemple, Tistegaïgan, c'était l'objet qu'on piquait.
Le calendrier?
Calendrier, oui.
L'objet qu'on piquait.
Ouais.
Ah, ouais.
Ouais. Mais comme les saisons reviennent, tu sais, puis tu finissais par savoir qu'il y avait peut-être 12 lunes ou 13 lunes, dépendamment, tu sais, des croyances.
Mais d'abord, c'est quoi la différence entre le mot pour la montre puis le pour calendrier, si ça veut dire à peu près la même chose?
Non, tu vois, c'est parce que les lunes est important, beaucoup plus important. Mais ça, les dates, peut-être c'est arrivé par après. C'est pour se retrouver dans les dates, il fallait piquer des nombres. Donc, il fallait, tu sais, tu piques le 1, le 2, le 3, le 4, pour savoir tu étais rendu à quelle date. Parce qu'anciennement, c'était pas important, on n'avait pas de date. On avait des pleines lunes.
Des saisons.
Des nouvelles lunes. Tu vois?
Oui, je comprends.
Donc, les dates, tu faisais pas attention. Ben là, cette lune-là va me donner 30 jours, l'autre va me donner 31. Non. De calendrier, t'arrivais. Après les lunes, tu sais, les dates, tu vois, c'était comme ça.
Parfait, tu me recommandes. Joséphine Bacon-Ekana, Neil Marie-André Gill. Balado de la radio CKAU, administré par Terre Inou. Enregistré au studio Makoucham, présenté grâce à Patrimoine Canada, l'Institut Tegapesh, Transistor Media, PAL Airlines, le complexe Agara et la SOCAM.
Hey, je vais te laisser. Je dois recevoir mon vaccin Lac des Îles.
Ton vaccin Lac des Îles?
Ben ouais, tu sais comment j'ai hâte d'organiser mon barbecue au chalet avec toute la famille?
Pas bête, ça. Moi, je vais demander mon vaccin restaurant. Ça me manque les soirées improvisées avec les amis.
Hey, moi, j'y vais. Je pense pas qu'il fonctionne contre les retards, ce vaccin-là.
La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca/vaccin-COVID. Un message du gouvernement du Québec.
Todos aprendimos del COVID-19 es que algo pequeño se propaga con rapidez, como una onda expansiva. Si suficientes personas aportamos nuestro grano de arena vacunándonos, podemos generar una reacción en cadena. Una cadena de canadienses de ayuda mutua para regresar a las personas y a los lugares que amamos. Al recibir la vacuna, estamos ayudando. Obtén más información en canada.ca/COVID-vaccine. Un mensaje del Gobierno de Canadá.
Yeah, what's up, folks? DJ Rhythm and Hughes, a.k.a. Parker Ma, here with you from Montreal, Quebec, Canada, co-founder of the Tumbao Montreal DJ Collective. Today, we're going to look at an exclusive mix of music that we don't often hear on the radio, much less in DJ sets, African salsa. So really, la salsa africana, talking about music that was either produced in Africa or produced by African musicians that falls into this genre that we know as salsa. We're going to be talking a little bit about the history of how that happened, the music originating in Africa, obviously coming through to the Caribbean by the transatlantic slave trade, and they're going through a number of different evolutions that would eventually lead to the birth of salsa in New York, in Puerto Rico, in Cuba, Colombia, and various other places in which it was started to be a flourishing Creole art form, and then came back to the mother continent and influenced a whole generation of young musicians that infused